Bonjour tout le monde. Bon mardi matin. Nous sommes au milieu du mois de septembre et on a l'impression que plus ça va et plus on nous confirme finalement qu'on a les deux pieds dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la deuxième vague. Après, vous allez me dire, bon, ça y est, encore partie COVID. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait vraiment des gros efforts pour vous parler d'autre chose. Mais malheureusement, devant le nombre de cas qui augmente, on n'a pas d'autre choix que de revenir là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vers 13h, j'en profite pour vous dire qu'on sera en diffusion du point de presse du premier ministre François Legault, qui sera avec son ministre de la Santé et des Services sociaux, pardon, Christian Dubé, le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, bon, des whole shebang. Ils seront là tous les trois pour nous dire quoi? Mais probablement qu'il y a quatre autres zones jaunes qui vont être annoncées, en plus de Québec, capitale nationale, Laval, Estrie, Outaouais, dont on nous a parlé la semaine dernière, qui sont désormais des zones jaunes, où ça fait le party pas mal. Vont se rajouter Montréal, entre autres, et Bas-du-Fleuve, entre autres, et deux autres régions. Alors, Montérégie, apparemment, la zone jaune, c'est quoi? C'est une zone de préalerte. Vous vous souvenez que la semaine dernière, Christian Dubé, ministre de la Santé, nous a parlé de son système d'alerte régionale était composé de quatre paliers. Le palier 1, vert, la vigilance. Le palier 2, jaune, préalerte. Orange, alerte modérée. Palier 3, évidemment, la zone rouge, c'est l'alerte maximale. L'équivalent d'un confinement. Là, c'est un peu décourageant de voir que de plus en plus de gens semblent faire fi des mesures sanitaires de base. Et tout simplement parce qu'ils sont tannés. T'as beau être tanné à un moment donné. Je lisais ce matin Richard Martineau, que j'aime bien lire, et qui disait, puis je vous le cite, il disait, tu sais, on est tanné de l'hiver, ça veut pas dire qu'il y en aura pas. Puis je trouve que ça veut tellement... Ça explique bien. Tu sais, t'as beau être tanné de la COVID est là. Et quand même que tu y crois pas, c'est pas au choix, mon ami, tu vois. Alors, ce matin, j'avais envie, je sais plus comment le dire, puis je cherche d'autres façons de couvrir ce sujet pour qu'on en sorte éventuellement et qu'on parle d'autre chose. Et là, je me suis dit, peut-être que le truc, ça serait de vous donner des exemples de gens qui l'ont attrapé. T'sais? Plus on va avoir des exemples de gens, parce que je me dis, la force de l'exemple, ça vaut quelque chose, ça. Donc, parlons pendant la prochaine heure à des gens qui ont attrapé la COVID. Si vous êtes l'un de ces patients qui ont eu la COVID, j'aimerais que vous me disiez quels ont été vos symptômes. Avez-vous été fortement touché, légèrement touché? Bref, juste qu'on montre à tous ceux qui ne croient pas que ça existe pour vrai, vu qu'il y a du monde qui ont été touchés. Il y en a même qui sont morts. Alors, nous allons commencer avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui a écrit longuement là-dessus. Parce que c'est intéressant en plus son histoire à Dominique Champagne, mon invité, metteur en scène bien connu, initiateur du pacte pour la transition, puis vous allez voir quasiment tout est lié. Dominique est avec moi ce matin. Bonjour Dominique Champagne.
Bonjour, bonjour.
J'allais dire, ce qui est intéressant avec ton histoire, Dominique, c'est que toi, tu n'avais pas forcément au début des symptômes qui s'apparentaient à tous les premiers symptômes qu'on nous expliquait à la base.
C'est ça, moi je dirais que j'ai été parmi probablement les premiers cas, mais... Moi, j'ai eu mes premiers symptômes le 14 mars, qui était le samedi qui suivait, donc le fameux vendredi 13 où on a mis le Québec sur pause. Donc, j'ai commencé à avoir des symptômes qui étaient une fatigue, des douleurs dans le dos, etc. Puis tout à coup, une espèce de grande léthargie. Donc, ça correspondait pas du tout au discours public qui nous disait, ben, si vous avez des difficultés respiratoires, de la fièvre, de la température, et si vous avez voyagé, ben, vous êtes probablement à risque et susceptible de, on vous invite à passer un test. Alors, moi, j'essayais d'aller me faire tester parce que je voyais bien que quelque chose clochait et ça empirait de jour en jour. Et malgré des appels répétés à la santé publique à l'époque, on me disait, si vous n'avez pas voyagé, vous n'avez pas la COVID et vos symptômes ne correspondent pas à la COVID. Et donc, quand j'ai fini au bout d'une saga, ça a pris quand même 3 semaines par me faire diagnostiquer le positif. J'ai me faire tester après qu'on se soit fait refuser, en fait, ma femme et moi, parce qu'on n'avait pas voyagé. On est diagnostiqué positif. Et là, on s'empresse de témoigner publiquement. J'ai publié un texte sur Facebook pour dire, ben, nous, notre expérience, elle confirme que tu peux avoir la COVID sans être diagnostiqué des symptômes qui sont publicisés. Donc, ce qu'on a compris, ce qu'on sait maintenant, 6 mois plus tard, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on sait maintenant. Il y a beaucoup de choses, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais tu sais, il y a eu tout un débat, par exemple, autour du masque. À l'époque, on disait, ben non, lavez-vous les mains, mais le masque, c'est pas si important. On sait aujourd'hui l'importance du masque, on sait qu'il y a beaucoup moins de risques de l'attraper en extérieur que dans les pièces fermées où la quantité de CO2 va augmenter. Donc, c'est sûr que, par exemple, le retour à l'école ou des rassemblements avec la température qui baisse, qui sont plus à l'intérieur, ben les risques sont beaucoup plus élevés. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on vit dans un monde où Donald Trump nous dit hier en Californie, ça va se refroidir. Il y a des problèmes de gestion de la forêt qui sont au cœur des incendies historiques que la Californie connaît présentement. Donc, il y a du mensonge qui est au pouvoir. Il y a de l'ignorance, il y a de l'arrogance, il y a du déni. Et le Québec ne fait pas, ou le Canada ne font pas exception à ça. Il reste que quotidiennement, nous, on a invité la science à essayer de... qui n'a pas toujours raison, la science, mais quand même, de mettre la science au cœur des décisions politiques. Je pense qu'il y a eu un certain courage. Par moments, on se dit aussi, ça manque d'esprit critique. Mais là, le problème, c'est que l'esprit critique vient du côté de gens qui sont en plein délire. C'est-à-dire que là, on voit ce matin que un Québécois sur cinq ou sur quatre croit que c'est un complot. Et donc, on est dans le déni du gros bon sens et de ce que la science nous dit. Il y a une pandémie présentement et il y a des façons de modifier nos comportements pour faire en sorte qu'on évite cette deuxième vague. Visiblement, on n'est pas sur la voie de le faire. Moi, je vis beaucoup à la campagne depuis 6 mois. Aujourd'hui, je suis à Montréal et je vois à quel point les comportements à Montréal sont beaucoup plus difficiles. C'est un plus grand défi de bien se comporter à Montréal publiquement parce qu'il y a une densité de population. Donc, je pense qu'il faut vraiment, pas dire balayer du revers de la main les théories du complot, mais franchement, il y a un minimum de décence. Moi, je l'ai eu, j'en ai souffert comme si un train m'avait frappé, je m'en suis remis. Au terme de ma quarantaine, c'est ma propre mère qui était à l'Institut de gériatrie de Montréal qui a attrapé le virus et qui a été emportée. Ma mère avait 84 ans. On va dire, le fruit était mûr. Il en demeure pas moins que la COVID l'a emportée dans des circonstances absurdes où moi, qui aurais dû passer des jours, sinon des semaines à son chevet, on m'a donné le protocole imposé par l'État, m'a donné 10 minutes pour pouvoir aller faire mes adieux à ma mère qui était à sa fin de vie. Donc, il y a des circonstances tragiques. La pandémie impose une misère, un malheur qu'on peut en partie éviter en prenant des précautions. Fait que qu'il y ait des débats sur le complètement délirant, moi, je pense que les débats, ils devraient avoir lieu sur la qualité. Par exemple, est-ce que les classes présentement sont suffisamment aérées? Est-ce que les mesures adéquates sont prises? Et non pas se demander si c'est un complot des pharmaceutiques ou des Chinois ou de je sais quelle force obscure qui serait en train de contrôler notre cerveau. Franchement, il y a un problème évident, mais malheureusement, tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec notre rapport au réchauffement climatique. Il y a des réalités évidentes. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 5 tempête dans l'Atlantique, ça s'est jamais vu dans l'histoire depuis qu'on recense les tornades dans le monde. C'est un phénomène relié au réchauffement climatique pendant que la Californie est en flamme de façon historique. Puis il y a encore des gens comme Trump, c'est pas banal, des gens qui dominent et on a le même problème avec François Legault à Québec et Justin Trudeau à Ottawa, qui parlent des deux côtés de la bouche en même temps. C'est-à-dire que, oui, ils reconnaissent l'urgence climatique, mais en même temps, ils sont loin d'adopter les politiques courageuses qu'on devrait adopter pour faire face à la musique.
Et là, la COVID a pris tellement de place dans l'actualité que ça a préséance sur tout autre sujet, celui-là, Dominique.
La crise climatique n'a pas été réglée pour autant. Hein? Au contraire, elle continue de dégénérer et il me semble que vivant la crise qu'on vit là présentement et l'état d'urgence dans lequel on se trouve, on devrait tirer les leçons de sagesse pour dire il y a une crise dont la science nous parle qui est présentement et qui va continuer d'être autrement plus brutale et dévastatrice que la pandémie du coronavirus. Il faut se le dire, il y a eu des études très rigoureuses qui sont sorties en Europe la semaine dernière où on nous dit que, j'ai les stats devant moi là, où le nombre de personnes qui meurent de la pollution atmosphérique au monde, c'est beaucoup plus important que le monde qui meurt de la COVID. On dit que
mais là,
une
si
personne
tu dis
sur 8
ça,
en Europe ouais. va mourir de la des conséquences de la pollution atmosphérique. C'est quand même pas rien.
Mais en disant ça, Dominique, là, tu vois, moi, si, mettons, je suis complotiste ou j'y crois pas trop, que je pense juste que c'est un gros rhume puis qu'on nous a confinés pour rien, il y en a qui pensent ça, ben là, ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que, dans le fond, la COVID, c'est moins pire que l'environnement, puis on devrait tous être dehors, au lieu de faire des manifs contre le port du masque qui brise nos droits et libertés, on devrait tous être dehors, comme on a déjà eu l'occasion de le faire, remarque, à Montréal, entre autres, mais pour lutter contre les ignorants qui pensent encore qu'il n'y en a pas de crise climatique.
Ouais, ben là c'est sûr que tu sais on peut passer. Je veux dire, moi j'en ai organisé des rassemblements. Je pense que j'ai été un grand rassembleur pour le climat depuis 10 ans.
Ouais.
Tu sais, il y a un an là, à peu près jour pour jour, ces jours-ci, le fin septembre l'an dernier, on était 500 000 dans la rue pour dire il y a une urgence climatique. Les gouvernements adoptent des motions de reconnaissance de l'urgence climatique, mais les gestes n'ont pas suivi.
Ouais.
Alors, bien sûr, on peut passer beaucoup de temps à manifester. Là, on est rendu au temps où il faut aussi passer à l'action coûte que coûte.
Ouais.
Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de manifester, mais de grâce, mettons le gros bon sens, la sagesse, la connaissance, la science et des débats scientifiques s'il y a lieu, parce que la science n'est pas unidimensionnelle, au cœur des décisions politiques et économiques qu'on a à prendre. On vit dans un monde, tu sais, la WWF de la semaine dernière nous dit que depuis 50 ans, là, 68% de la faune a disparu.
Ouais. Mais revenons
ça,
à toi.
Des scientifiques, là, c'est des trucs réels ouais. qui existent.
Revenons à toi puis à la COVID, parce que ouais. c'était quand même le but de ton intervention. Je voulais que tu nous témoignes de tes symptômes, de la façon ça t'avait frappé. Tu as dit, moi, tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'un train m'était passé dessus. Ta blonde, Julie, l'a eu aussi. Ta maman en est décédée.
Ouais.
Ça a eu un impact énorme dans, ouais. dans vos vies. Là. Et la
ouais,
semaine
moi, je pense que, en ce qui me concerne, là, j'étais depuis, je dirais, l'urgence climatique d'il y a 2 ans, dans un changement important de mes propres comportements. Et je pense que la COVID, la pandémie, a accéléré ça, c'est-à-dire accéléré le changement vers ralentir. Je pense qu'il faut ralentir. Je pense qu'il faut moins produire et moins consommer. Il faut essayer de tendre un peu vers un monde où on va se sentir plus heureux, plus sobrement. Et je pense que généralement, tu sais, il y a une
sans
baisse.
Karaoké?
Ben là, après ça, il faut, je pense, se donner le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, mais il faut aussi donner de l'espace à l'esprit critique rigoureux. Là, le problème, c'est que l'esprit critique qui se manifeste souvent le plus est un esprit critique complètement délirant. Là.
Ouais.
On ne peut pas mettre l'ésotérisme tout à coup au cœur des décisions politiques et économiques qui nous importent et que ça vient comme divertir la question. Alors, pour témoigner de mon expérience, moi, ce qui s'est produit, c'est que mes symptômes étaient complètement atypiques, mais aujourd'hui, on sait que ces symptômes-là peuvent être liés à la COVID. Dans mon cas, c'était principalement une grande léthargie, une grande fatigue, ce qui n'est pas mon naturel. T'sais, moi, je suis sur le piton assez de bonne heure, même si je ne dors pas des nuits complètes, j'ai de l'énergie, je ne suis pas tuable. T'sais. Alors que là, je faisais des siestes à 10 heures le matin, des maux de dos, des maux de tête, et ça a duré pendant plus que 2 semaines, je dirais. Ma femme éprouvait les mêmes symptômes avec elle. Elle a complètement perdu l'odorat.
OK, j'allais te demander justement le goût, l'odorat surtout, dont on dit qu'il est beaucoup affecté. Vous
c'est
l'avez
ça. Alors,
eu,
ma
ça.
Ma femme, ouais. qui a un odorat extrêmement fin, a complètement perdu pendant plusieurs semaines. Donc, et on sait depuis qu'il y a des gens qui sont porteurs. Nous, on prend ce que la personne qui nous l'a transmis, on hébergeait un jeune étudiant en théâtre à l'École nationale de théâtre qui venait de France, qui avait passé sa relâche à New York. Et lui n'a eu aucun symptôme depuis. On était en communication avec lui. Et nous, on présume que c'est comme ça qu'on l'a contracté. On n'en a pas la certitude. Mais donc, ce qu'on sait, c'est que il y a des gens qui n'ont aucun symptôme,
ouais.
qui sont porteurs du virus. On le sait maintenant. C'est la science qui nous le dit.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut croire ça? Puis en même temps, c'est pas exclusif. Donc, on a vu, tu sais, le bon docteur Arruda commettre des erreurs. En même temps, on a voulu croire dans sa rigueur. Et je pense que ni François Legault, ni le docteur Arruda, ni personne au Québec n'avait un mode d'emploi. Mais il y a des esprits critiques. Je pense au docteur Liu. Il y a beaucoup de gens qu'on a peut-être un peu écartés du débat. Et moi, je pense qu'on devrait ramener un peu plus d'esprit critique pour que le gros bon sens règne. Assurons-nous aujourd'hui que dans les classes, entre chaque cours, on ouvre les fenêtres et qu'on aère les classes parce que les quantités de CO2 qu'on produit quand on respire, si on met 30-35 personnes dans une classe fermée ou avec les fenêtres un peu ouvertes, c'est pas suffisant. Et ça, c'est un grand vecteur de propagation, comme les karaokés peuvent l'être, comme n'importe quelle party de famille et le reste. Moi, je fête mon beau-père dans 2 semaines, il y a 90 ans, puis on se casse la tête pour savoir comment on va pouvoir organiser la fête. J'ai organisé dimanche dernier les funérailles de ma mère dans une église à Montréal, et c'était un casse-tête. Et c'était tellement triste d'avoir à vivre ça, de retrouver des gens de la famille, les cousins du monde que j'avais pas vu depuis 10 ans, puis j'ai pas le loisir de les prendre dans mes bras, j'ai même pas le loisir de les voir sourire, on porte un masque, puis on... Alors, c'est sûr qu'on vit une situation désordonnée.
Et pendant ce temps-là, il y en a qui font fi de tout ça, et c'est pas là, les nouveaux tannés, j'ai l'impression, là, ça va être tous ceux qui respectent les règles, tu penses pas, puis qui voient que les autres le font pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme vraiment deux clans, là. C'est malheureux.
Il y a deux clans. Je pense que c'est un des graves problèmes du monde dans lequel on vit présentement, c'est que c'est rapidement, on polarise les situations. Moi, là, toute ma vie, j'ai rassemblé du monde. J'ai rassemblé des artistes de toutes sortes d'horizons pour faire des shows. J'ai rassemblé toutes sortes de spectateurs dans des salles de spectacle. J'ai été un rassembleur toute ma vie. Là, j'ai pris position. J'ai décidé de consacrer 2 ans de ma vie au climat. À ce temps, c'est rendu, je dis « Joyeux Noël », puis je polarise tout le monde. Je me fais écœurer parce que je dis « Joyeux Noël ». Fait que je vois bien, je l'ai constaté plus que jamais dans un passé récent, à quel point on se polarise. On se polarise souvent parce qu'il y a une frustration très forte. La société américaine, là, c'est possible. C'est difficile à croire, mais c'est possible qu'on réélise Trump.
Ouais. Je veux pas t'embarquer sur Trump maintenant parce qu'il me reste peu de temps. Je voulais juste te donner... t'as parlé de ta maman, puis vous avez eu ses funérailles la semaine dernière, dimanche dernier. Ça a été finalement... c'est difficile, le deuil, puis je compatis avec ta douleur, comme beaucoup de gens d'ailleurs au Québec qui n'ont pas eu les moyens physiques de pouvoir dire au revoir à leurs proches. Il y en a là, qui étaient en CHSLD qui n'ont jamais même pu s'approcher. Je veux dire, ça, puis on va en parler tout à l'heure du traumatisme, de l'anxiété, de la COVID, là, que ça a pu créer chez les gens. Mais toi, aujourd'hui, comment t'es par rapport à ça? Est-ce que
Genre,
t'es plus serein,
j'ai vécu ça douloureusement, bien sûr, comme n'importe qui perd sa mère, je pense. Notre mère, c'est l'amour infini, c'est l'amour inconditionnel. Puis j'en ai fait des conneries dans ma vie, moi, puis jamais ma mère m'a jugé. Alors, hier, je suis allé voir le film de Paul Rose, ou Sur les roses, avec Jacques Rose et Paul Rose, et c'est tellement beau de voir la fierté de Rose, la mère de Paul et de Jacques Rose, qui dit à Paul Rose comment est-ce qu'elle est fière, comment est-ce qu'elle va retenir ses larmes et être fière de lui. On vit des choses difficiles. Tu sais, les gens... Moi, j'ai perdu un ami à l'âge de 17 ans qui est mort fauché. Il avait, lui, 18 ans dans un accident de voiture. Donc, on sait que la mort est violente. On le sait. Donc, je veux pas me plaindre des circonstances de la mort de ma mère, mais c'est sûr que la pandémie comme telle a imposé une absurdité qui venait rajouter à l'absurdité naturelle de la mort. Et il y a des absurdités qu'on peut, ensemble, si on met le gros bon sens au cœur de nos pratiques, si on met la science et la connaissance, j'ai envie de dire la vérité, pour peu qu'on puisse essayer de la cerner avec plusieurs points de vue au cœur de nos pratiques pour éviter que ces absurdités-là, ces drames-là, se multiplient.
Ouais.
Parce que c'est sûr qu'il y a de la souffrance là, liée à ceux qui en souffrent de la COVID et à ceux qui en meurent souvent dans des circonstances tragiques.
Merci beaucoup, Dominique Champagne. Merci bien. Merci d'avoir pris le temps.
Merci, au plaisir.
On a vraiment pris beaucoup de temps, mais je trouvais que c'était important. Alors, on va vite à la pause et on revient tout de suite avec vos commentaires. Vous avez eu la COVID-19. Dites-moi comment ça vous a frappé. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Mme Maréchal.
Vous l'avez-vous eu solide?
Oui, bien, disons que je l'ai eu solide, moi et ma conjointe, ainsi que 7 de mes amis, durant les vacances cet été. J'étais un petit peu incrédule sur peut-être cette maladie-là, parce que j'avais confiance à la vie. Mais disons que j'aurais passé mon tour. J'ai été 10 jours couché durant les vacances, puis à peu près une semaine après à remonter la santé et un petit peu l'énergie.
Comment, donc, quel genre de symptômes vous aviez? Est-ce que ce sont ceux qu'on décrivait ou vous en avez eu d'autres?
J'ai eu l'ensemble des symptômes à l'exception de la perte d'odorat. Donc, ça a commencé avec une petite toux légère. Après ça, un mal de tête, une température, courbature, une fatigue extrême. Puis quelques jours après, par-dessus ça, c'est ajouté mal de cœur, mal de ventre et étourdissement. Donc, pendant une couple d'heures, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis je me demandais si je devais rester chez moi dans mon lit ou aller à l'hôpital parce que on se pose des questions, des fois on a un petit peu d'inquiétude, puis quand on est étourdi, on se demande est-ce que c'est le manque d'oxygène ou c'est un symptôme jusqu'à temps de parler à un docteur puis qu'on dit c'est des symptômes. Donc, c'est plus intense qu'une grippe. Pour ma part, il y a des gens que je connais qui l'ont eu, qui étaient avec moi, qui a été beaucoup moins pire. Mais disons, je suis une personne en forme, je pensais pas de l'avoir aussi fort. Donc, c'est quelque chose que je voulais témoigner avec vous parce que c'est pas évident. J'avais mes trois filles en confinement dans notre propre chalet, ma conjointe dans le sous-sol, moi à l'étage. Mmh. On vivait en confinement dans la maison. Donc, ça change un petit peu une vie. L'important, c'est de souhaiter aux gens qui l'ont de pas avoir de séquelles. Et il faut vraiment se reposer quand ça arrive. C'est le système immunitaire qui est attaqué de tout bord, tout côté. Puis chaque personne réagit différemment.
Mmh. Vous comprenez les gens qui manifestent contre le port du masque?
Ben, disons, j'ai comprends peut-être sur un aspect de droit, mais à part de ça, je pense que s'il y avait la COVID, je pense qu'ils prendraient le soin de mettre le masque. Puis c'est difficile à savoir de dire est-ce que le masque va aider de 10, 15, 30, 40%, mais je pense que ça vaut la peine de jouer le jeu pendant une petite période de temps pour éviter de propager et même de l'avoir ou de le donner à des proches. Là.
Mmh, tout à fait. Merci, Pascal. Merci bien. Marilyn, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Écoute, moi j'étais un petit peu dans la même situation que Dominique parce que moi j'étais en Inde. Moi je suis partie en Inde le 2 mars et j'étais censée revenir le 15 mars. Mais moi mon père est décédé le 10 mars de la COVID. Et moi le 11, j'avais commencé à avoir des symptômes en Inde. Et à cause du malheur qui m'est tombé dessus, j'ai dû revenir d'urgence, mm-hmm. malade. Et moi j'ai atterri le 13 mars à 15h à Montréal. Et mon conjoint me dit tu peux pas revenir comme ça là, et sûrement tu pourras pas rentrer à
c'était la journée du confinement officiel le 13 mars, ouais.
Exactement. Et moi, écoute, j'avais de la misère à me traîner, j'ai été obligée je suis partie de l'Inde, j'ai fait un détour par l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'était atroce. Et quand je suis arrivée, je me traînais. Et moi je suis immunosupprimée. Et je prends du métrotrexol puis de l'Humira. Donc, moi, je me disais, ben, peut-être c'est la fatigue, etc. Et au bout du compte, finalement, le lundi, je suis allée me faire tester. J'étais positive. Et moi, ça m'a scié en deux. Là. J'ai encore des séquelles avec mes poumons aujourd'hui.
Ah oui? Marilyn, expliquez-moi les séquelles que vous avez. Vous avez le souffle court?
Oui, le souffle court. Et j'ai comme une toux de fumeur le matin. Mm-hmm. Et moi, tu sais, je suis prof de yoga. Fait que c'est comme, je trouve ça...
Vous n'aviez jamais eu ça avant, là?
Non, moi, je n'avais jamais eu ça avant. Et vu que moi, puis en plus, là, écoute, je me rappelle du nombre de jours, ça a duré 32 jours, Isabelle. Moi, je me traîne, j'avais de la misère. Et en plus, moi, j'avais des symptômes au début qui n'existaient pas. Mm-hmm. Moi, j'ai eu des mal de cœur. Mm-hmm. Moi, je faisais pas de fièvre parce que je suis immunosupprimée. Puis quand je me suis pointée pour mon test, là, moi, j'étais la première personne que l'infirmière testait. Fait que je vais te passer de la façon que j'ai passé mon test, là, parce que tu vas te dire que ça se peut pas. Moi, mon conjoint a tenu l'éprouvette dans ses mains pour qu'elle mette le Q-tips dedans.
Mm-hmm. Ouais, ça fait mal quand ils cherchent dans le nez puis qu'ils sont pas sûrs.
Ouais, effectivement. Ouais. Mais moi, je vais te dire que moi, mon conjoint, à partir du jour 1 qui est venu me chercher, il a porté un masque, des gants tout le temps. Ouais. Il avait l'air d'un extraterrestre. Moi, je suis pas sortie avant le mois de mai. Puis quand j'ai commencé à sortir puis que je voyais les gens comment ils me mettaient en danger, écoute, j'avais le sang qui tournait, si on peut dire ça comme ça. Et de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui pensent que c'est un complot, c'est parce qu'ils n'ont pas été malades ou ils n'ont pas connu un proche. Tu sais, moi, en fin de semaine, samedi, j'enterre mon papa qui est mort le 10 mars. Fait que je l'ai eu. Mon père est décédé de ça. Et, écoute, moi, je ne souhaite pas ça à personne. Du tout. Parce que, tu sais, je veux dire, le complot, là, regarde, on va repasser. Hein.
Puis j'imagine que vous avez déjà eu la grippe avant, puis ça n'a rien à voir, là.
Ah non, non, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais suivie beaucoup par le les services de la santé, là, puis je disais tout le temps, j'ai mal au carré. Dans ça, j'avais mal au poumon. Tu sais, j'avais comme l'impression, là, ça me brûlait. C'est comme si c'était en train de... En tout cas, c'est un petit peu dur à décrire, là. Mais moi aussi, je disais au début, j'avais donné une entrevue à quelqu'un de Radio-Canada, puis j'avais dit... J'ai l'impression que j'ai passé en dessous d'un train.
Ah oui, vraiment. Ouais, ouais. Merci. C'est merci beaucoup, Marilyn.
Merci,
merci de votre témoignage. Puis c'est un peu le but là, des témoignages que je veux recueillir de votre part ce matin. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, des parmi ceux qui y croient plus ou moins, qui disent « Hey, on en connaît-tu un qui l'a eu? » Puis encore plus, il y en a qui disent « Est-ce qu'on en connaît un qui est mort de ça? » Mais voyez-vous, les gens qui en parlent ce matin, ils l'ont eu et souvent, ils ont enterré un proche âgé. Alors, j'espère que c'est la force de leur exemple qui va peut-être faire rendre compte aux récalcitrants qu'il y a un véritable enjeu de santé publique ici, puis que, oui, on est tous tannés, puis on a hâte de sortir des quarantaines obligatoires, du masque qui est rendu obligatoire dans les lieux publics fermés. Oui, on a envie de reprendre une vie normale, mais tant qu'il y aura des gens qui vont faire fi des mesures de base, on n'y arrivera pas. C'est un peu ça le message, finalement. C'est pas le gouvernement qui m'a payé pour vous dire ça, c'est juste le gros bon sens. À un moment donné, c'est comme, c'est le même, c'est le même. Qu'est-ce que tu veux? On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires et une entrevue avec un gériatre, le docteur David Lucier, qui lui aussi l'a eu, la fameuse COVID-19. À tout de suite, tout le monde. Nos numéros, peut-être 514-790-9850.